chapitre 3 et 3 versets seulement. Philippiens, chapitre 3, les versets 12, 13 et 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul nous ouvre son cœur. Il partage avec nous son ressenti intérieur et dans ce bref passage, l'apôtre Paul ramène le souvenir de sa rencontre avec Jésus. Je crois, frères et sœurs, que s'il est un événement dont nous devons nous souvenir avec une fraîcheur sans cesse renouvelée, c'est notre rencontre avec Jésus. Amen. D'ailleurs, cet homme de Dieu va souvent faire mention de sa rencontre avec Jésus. Il ne va pas oublier cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, à Jérusalem, sur les degrés du temple, devant la foule, et il va, avec force détail, expliquer comment il a rencontré Jésus et comment sa vie a changé. Au chapitre 26, bien plus loin, devant le roi Agrippa, l'apôtre Paul va à nouveau faire mention de sa rencontre avec Jésus. Ici, il exprime cette rencontre avec son Sauveur par une expression très simple, mais tellement forte, « J'ai été saisi par Jésus-Christ ». Une phrase et une image très forte qui montre que rencontrer le Seigneur Jésus va profondément marquer notre cœur parce que il n'y a pas d'expérience plus forte, plus intense en émotion, plus spectaculaire en changement engendré que la rencontre avec Jésus. J'ai été saisi par Jésus. Il y a ici l'image d'une étreinte d'amour. Je vous parlais en quelques mots de notre témoignage. Vous savez, quand maman a revu, après 17 ans d'éloignement, ses parents, son jeune frère, sa jeune sœur, je vous assure, elle les a saisis. Elle les a serrés contre sa poitrine. Et il y avait des larmes de joie. C'est comme cela que le Seigneur Jésus se révèle à nous, comme ce berger qui laisse les 99 ici, et il va chercher avec passion, compassion, la brebis perdue. Et Luc, chapitre 15, le Seigneur dit, quand il l'a trouvée, imaginez la scène, il saisit sa brebis. C'est une étreinte d'amour. C'est comme si le berger disait, tu m'as fait peur, hein? Tu étais passé où? Mais tu m'as manqué. C'est ainsi que le fils prodigue va voir son père courir à sa rencontre et l'évangile dit, le père, il se jette au cou de son fils, il l'embrasse. C'est l'étreinte d'amour. J'ai envie de dire, c'est l'étreinte des retrouvailles. Et j'imagine fort bien le père dire à l'oreille de son fils, « Mais tu m'as fait peur, j'ai eu peur pour toi, j'ai été en souci pour ton devenir, je n'avais plus de nouvelles, tu m'as manqué. » C'est ça la rencontre avec Jésus. Ce n'est pas une question de théologie cérébrale, froide, ce n'est pas une question de philosophie, ce n'est même pas une question de valeur morale. C'est vivre l'étreinte de l'amour du Sauveur qui nous entoure, qui nous saisit. C'est l'étreinte des retrouvailles. Et j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Toute ta vie chrétienne, tu devrais la vivre dans cette étreinte. Faites-moi quelque chose, par exemple. Toute ta vie chrétienne, tu devrais la vivre dans cette chaleur de ce contact d'amour avec le Seigneur Jésus. Il y a un merveilleux cantique qui dit « Dans tes bras d'amour ». Eh bien oui, c'est dans cette position-là que Dieu voudrait que tu restes. Et c'est autour de cette image que j'aimerais développer ce matin quelques réflexions. Vivre ma vie chrétienne dans cette étreinte de l'amour de Christ qui me fait du bien, qui me rassure, qui me réconforte. Parce que dans cette position où je suis, dans les bras et dans les mains du Seigneur, je lui permets de déverser dans ma vie ses bénédictions. Le premier point, rester dans les mains du Seigneur pour être béni du Seigneur. Amen. Et moi, tous les jours, j'ai besoin qu'il me bénisse. Et écoutez-moi bien, ça n'est pas être égoïste, ni intéressé, de dire « Seigneur, bénis-moi ». C'est être réaliste. Moi, si le Seigneur ne me bénit pas, je ne tiens pas. Je n'ai pas les ressources pour persévérer, traverser les déserts, comme je vais vous en parler tout à l'heure. Mon frère, ma sœur, reste dans les mains de ton Sauveur pour recevoir de lui toutes les grâces nécessaires à ta persévérance. Dans les mains du Seigneur pour sentir la chaleur de son cœur. Dans ma vie, Jésus ne doit jamais devenir une religion froide, un ensemble de rites automatiques, mécaniques. Non, non, non. Je veux au contraire que mon amour pour Christ se développe, s'enrichisse. Ce que j'ai contre toi, dira Jésus, mais c'est que tu es tiède. Que tu es tiède. Et à Éphèse, il va dire « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Une vie chrétienne sans une relation d'amour intense, ce n'est pas la vie chrétienne dans sa pleine dimension. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé, entre autres, pour attiser cette flamme d'amour, nourrir cette relation d'amour. Le Seigneur aurait pu faire la morale à Simon, le fils de Jonas, au lendemain de son triple reniement. Il aurait pu faire la morale. C'est pas bien, tu m'as trahi. Non. Une question. Posée trois fois. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Dans le grec, m'aimes-tu de l'amour de Dieu ? Et deux fois, Simon répond, tu sais que je t'aime. Mais dans le grec, je t'aime comme un ami. Visiblement, ça ne satisfait pas le Seigneur. Puisqu'une troisième fois, le Seigneur questionne en utilisant le verbe que Simon a utilisé. Simon, la troisième fois, m'aimes-tu comme un ami ? Et là, toutes les résistances et la carapace de Simon fondent. J'aime tellement cette phrase, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Quelquefois, il faut l'insistance de Dieu pour casser nos résistances et pour nous amener à exprimer notre cœur. Tu sais toutes choses, j'en ai honte, ce que j'ai commis trois fois, ça me ronge l'âme, ça me gangrène, ça m'interdit le bonheur, j'ai honte de ce que je suis. Et il vide son cœur et il termine quand même par un cri de victoire. Mais tu sais que je t'aime. Et là, il prend le verbe aimer de l'amour de Dieu. Quelle victoire! Il va être remis sur les rails et on connaît quel beau ministère l'apôtre Pierre a eu, n'est-ce pas, pour la conversion à Jérusalem en Israël. Il a été une colonne de l'église naissante, n'est-ce pas? C'est tellement important de vivre cette étreinte d'amour au quotidien et là, de recevoir l'encouragement, la consolation, la paix face à des problématiques complexes, des ressources spirituelles, des énergies célestes pour aller de l'avant, être dans la main du Seigneur pour être béni, provisionné, pourvu, secouru dans tous les domaines matériels, psychologiques, spirituels, sociaux, familiaux, demeure dans les mains du Seigneur. Amen. Deuxième axe de commentaire, demeurer dans les mains du Seigneur pour lui permettre de me former, de m'éduquer et de me transformer. Dieu, en parlant de la glorieuse délivrance accordée à Israël qui était esclave en Égypte, Dieu dira « Je les saisis par la main » pour les faire sortir hors du pays d'Égypte. C'est la première phase, très spectaculaire. Les 10 plaies d'Égypte, c'était spectaculaire, la mer Rouge qui se fend en deux, deux murailles d'eau qui obéissent à l'ordre du Créateur, et un passage à sec, c'est glorieux. Mais j'ai envie de dire, ce n'est que le commencement du travail que Dieu devait accomplir chez son peuple. J'ai presque envie de dire que c'est de l'autre côté de la mer Rouge, pendant les 40 ans dans le désert, que le travail le plus difficile va commencer. Parce que pour Dieu, dire à un océan, oh, allez, partage-toi en deux, c'est le Créateur. C'est pas difficile pour Dieu. Par contre, le travail qu'il a entrepris pour former et transformer l'homme intérieur de tous ces Israéliens a nécessité 40 ans. 40 ans dans le désert. Mon frère, ma sœur, certainement pour toi comme pour moi, le travail peut-être le plus complexe avec les résistances coriaces souvent qu'il rencontre, c'est le travail de la transformation que Dieu veut opérer à l'intérieur de nous-mêmes. Qui est-ce qui permet au Seigneur de le transformer ce matin? Qui va dire, Seigneur, je te permets de me transformer? Deux mains, il y en a déjà au moins deux, c'est bien. On lève les mains. Est-ce que tu vas autoriser le Seigneur, pour qu'il te transforme. Le psaume 119 va dire au verset 73, « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. » On pourrait dire, « Seigneur, tes mains m'ont sauvé, j'ai été saisi par l'étreinte d'amour du Sauveur. Tes mains m'ont sauvé, et depuis que je suis sauvé, ben, tes mains veulent me former et veulent me transformer. Et là, mes amis, on touche à la partie la plus intime de nos personnes. Là, on touche au domaine de nos pensées, parce qu'on a tous nos modes de pensée. On touche au domaine de notre être psychologique, Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'une éducation qu'on a reçue. On n'a pas reçu tous la même éducation, avec des codes culturels qui sont différents. Je ne sais pas combien de nationalités sont représentées ici, mais avec moi, ça en fait une de plus. Donc, avec des codes culturels, par exemple, mes parents nous disaient, quand on était petits, quand on est chez des gens invités et que la dame vous propose des chocolats, vous dites non merci. Si elle revient, vous dites non merci. Et si vraiment elle revient, vous prenez. Bon, c'est l'éducation arménienne de mon époque. Hein, voilà. Mais je ne vous cache pas que ça me poursuit encore. Quoique tout à l'heure, je vais peut-être aller simplement au but. Hein. Mais on a des codes culturels, éducatifs très différents qui ont façonné notre être intérieur. Et voici qu'un jour merveilleux, Jésus nous saisit l'étreinte d'amour des retrouvailles. Il nous prend en main et il entreprend maintenant de nous rééduquer. De nous rééduquer. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que l'éducation divine est un passage obligé. Laisse-toi éduquer par le Seigneur. Laisse-toi former et donc transformer par le Seigneur. Laisse le Seigneur remplacer tes modes de pensée par son mode de pensée. Nous qui sommes spirituels, va dire l'apôtre Paul, nous qui sommes spirituels, nous avons la pensée de Christ. C'est facile à lire, mais quand on va dans le fond des choses, la pensée de Christ, elle ne vient pas s'établir comme ça d'un coup de claquement de doigts. Non. La pensée de Christ, en se révélant en nous, rencontre nos pensées à nous. Et il faut tout un travail de Dieu, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, mais aussi, je vais y revenir, par les déserts, pour réussir à écarter nos pensées pour que sa pensée vienne instaurer son règne en nous. Ça, c'est l'homme spirituel, la femme spirituelle, nous qui sommes spirituels. Parce qu'il écrit ça aux Corinthiens, à qui il dit avec larmes, ce n'est pas à des hommes faits que j'ai parlé, c'est à des enfants, c'est à des chrétiens charnels, il va leur dire. J'aurais voulu vous servir un menu plus consistant. Mais dans l'état où vous êtes, vous allez attraper une occlusion intestinale. Hein. Vous en êtes resté au petit lait. Parce que vous êtes charnel. Et Paul, démontrez. N'êtes-vous pas charnel? Lorsque vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis de Simon, Pierre, Céphas, moi je suis d'Apollos, et puis les ultra-spirituels, moi je suis de Christ. Nous sommes tous de Christ, mais il y a quand même un esprit de supériorité qui transpirait des paroles de ces gens-là, n'est-ce pas? Et Paul va pleurer en disant, mais n'êtes-vous pas charnel lorsque vous vous exprimez ainsi? Quel chaos il y avait dans cette église de Corinthe qui pourtant avait été merveilleusement bénie par une abondance de dons spirituels, des choses magnifiques, et cependant, les chrétiens qui avaient tant reçu étaient restés charnels. Or Dieu veut travailler à nous transformer d'étape en étape jusqu'à ce que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Ils ont la pensée de Christ en eux. Tous les clivages et toutes les marques culturelles, éducatives, de personnalité, que sais-je, ont laissé le pas à Christ. D'ailleurs, il y a un pasteur qui disait, quand Dieu nous regarde, il veut voir Jésus. Moi, ça m'a parlé, ça, je le savais déjà, hein, mais quelquefois, il y a des formules comme ça qui vous marquent, et je dis, mais c'est beau, ça. Quand Dieu me regarde, il veut voir Jésus. Or, il ne pourra voir Jésus que si je permets à Dieu de me transformer à l'image de Jésus. Et puis, je termine ce partage biblique. Alors, dans les mains du Seigneur pour être béni, soigné, encouragé, alléluia. Dans les mains de Jésus pour être formé, transformé, éduqué, rééduqué. Et dans les mains de Jésus pour être utile. Parce que mon frère, ma sœur, dans sa grande bonté, Dieu veut que chacun d'entre nous soit utile. Utile, on l'a compris, à l'avancement de son œuvre. Utile. Le psaume 127 emploie une image. Voici, des flèches sont un héritage de l'Éternel. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. C'est une image. Alors, je termine rapidement. C'est l'image d'un guerrier. Ça nous parle il y a un combat. Frères et sœurs, l'Église sur terre doit bien être consciente qu'elle est engagée dans un combat. Hein. Le repos, ce sera dans le ciel. Quelqu'un est en train de dire, s'il est venu de Nîmes pour nous dire ça, il aurait pu quand même nous dire un petit peu des choses plus agréables. Mais c'est la réalité, frères et sœurs. À la fin de sa vie sur terre, Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire, je ne me suis pas trompé de combat. Je n'ai pas livré des faux combats. J'ai eu le discernement de livrer le bon combat. J'ai gardé la foi désormais. Alléluia. Gloire à Dieu. Un guerrier. Eh bien, oui, Jésus, qui est représenté par le bon berger, par l'époux, il est aussi le guerrier qui s'en va en guerre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les ténèbres, le péché et toutes les formes de servitude destructrice dans lesquelles se trouve l'humanité. Il est le guerrier. Gloire à Dieu, hein ? Et ce guerrier, il a remporté la victoire. Que quelqu'un dise un grand Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Il y a une nuance. La victoire, elle est déjà accomplie. Même l'ennemi ne peut pas le contester, gloire à Dieu. Par contre, nous combattons pour faire valoir la victoire de Jésus, remportée il y a 2000 ans, où par la croix, il a transpercé la tête du serpent ancien. 3 jours après, il triomphe du pouvoir de la mort, la pierre est roulée, Christ est ressuscité, il est sur son trône de gloire et il règne au siècle des siècles. Alléluia. Sa victoire, elle est déjà accomplie et nous sommes engagés dans ce combat pour faire valoir la victoire. Chaque fois que quelqu'un vient ici, se repent, accepte Jésus, c'est la conséquence de la victoire. Amen. C'est une âme arrachée à la perdition et son nom est couché sur le livre de vie, que le Seigneur soit béni. Et bien, dans ce contexte de victoire et de combat, le guerrier a son carquois. On pourrait y faire un rapprochement, il vaut que ce qu'il vaut, mais ce carquois peut représenter l'Église locale. Puisque c'est le guerrier qui porte son carquois comme Jésus porte son Église, et le carquois est rempli de flèches. Et ces flèches, eh bien, ce sont les enfants de Dieu. Tu es appelé à être dans sa main, dans la main du divin guerrier, une flèche utile et efficace pour faire avancer l'Évangile, reculer les ténèbres et amener des malheureux à rencontrer à leur tour la liberté en Jésus-Christ. L'espérance éternelle, que Dieu soit béni. Être utile. Alors je ne vais pas trop épiloguer, mais une flèche, ça ne se trouve pas en état naturel. Je parlais de fabrication, de formation, de une flèche, ben c'est un bout de bois noueux que l'artisan coupe, qu'il travaille. Il dépouille de l'écorce, il rabote les nœuds, il travaille, il taille et il obtient une tige la plus rectiligne possible. Une fois que son œil est satisfait, il fait passer cette tige en bois dans le feu, afin que le feu durcisse et fige les fibres. Ça, c'est le travail et le façonnage de ton caractère. Pour que tu sois utile à l'œuvre de Dieu, il faut que tu laisses le Seigneur travailler ton caractère, afin que le caractère de Jésus supplante le tien. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le travail du caractère. Je sais que dans votre caractère, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas d'écorce rugueuse, ça, il n'y a qu'à Nîmes qu'on rencontre ça. Hein. Mais au cas où, laisse le Seigneur façonner ton caractère, t'apprendre la patience, t'apprendre la sagesse, t'apprendre à bien gérer ta langue, t'apprendre à laisser tes émotions sous l'influence du Saint-Esprit, t'apprendre à être paisible toi-même et un artisan de paix pour les autres. Façonner ton caractère. Et une fois qu'il est façonné, permets-lui de le faire passer par le feu de l'épreuve, parce que ce feu de l'épreuve ne va pas te détruire, mais il va conforter son travail. Avec une tige bien rectiligne, il y a un grand pas de fait. La pointe en métal, c'est le service qu'on remplit. C'est le service qu'on remplit. Notre service a besoin d'être affûté, sans cesse aiguisé, affûté, comme on a besoin d'affûter la pointe d'une flèche, parce que notre service peut s'émousser. Est-ce que quelqu'un est fatigué dans le service qu'il remplit? Si tu es fatigué dans ton service, tu as besoin que Dieu aiguise. La joie et le zèle et la consécration heureuse avec lesquelles tu vas remplir ton service. Et puis, les plumes, qui sont un élément non négligeable parce que c'est grâce à ces plumes que la flèche va pouvoir voler très, très haut. Et ces plumes, je les comparerai à l'onction, à la présence, à l'inspiration du Saint-Esprit dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, les disciples ne sont pas allés très loin, hein. Mais baptisés dans le Saint-Esprit, ils sortent de la chambre haute et regardez ces flèches. Leur utilité, leur efficacité, une prédication, 3000 baptêmes. Une prière, le boiteux est guéri instantanément. L'ombre de Pierre passe, couvre les estropiés, les malades, et les malades sont guéris. Quelle puissance, quelle utilité, quelle efficacité. Pendant tout le temps que nous nous épuisons dans de faux combats, il y a le Seigneur qui nous appelle à entrer dans le bon combat. Et dans ses mains, à être des flèches utiles et efficaces. Que ta vie, que ma vie, lui soit de plus en plus utile. Et pour cela, pour ma propre personne, je veux veiller à faire abstraction de tous les éléments de digression, de tous les éléments parasites. Je veux rester convergé vers l'utilité pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble, hein. Alléluia. Que sa divine onction vienne nous envelopper les uns les autres et que nous puissions connaître, eh bien, une marche chrétienne dans une plus grande dimension, que nos vies le glorifient et permettent à notre entourage de rencontrer le Sauveur. Terminons par la prière, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Tu peux dire